advance.
Bedankt om aan jullie gekomen te zijn. Het is de grootste plaats in Antwerpen op zowat de warmste dag van het jaar tot nu toe. En als bonus krijgen jullie twee van de grootste filmmakers van ons land bij. Ook tevens de enige mensen die mij vanavond konden overtuigen om een lange broek en een hemd aan te doen. Anders was ik zo echt niet geweest. Jullie hebben net Le Jeune Ahmed gezien. En ik denk dat dat misschien wel een applausje verdient. Welkom, Jean-Pierre. We gaan het gesprek in het Frans doen. Ik hoop dat voor iedereen oké is. Is er iemand die heel erg graag wil dat jou doen voor een vraag zorg? Of gaat dat ongeveer wel lukken, denk ik? Ik hoor geen protest. Mocht er iemand op een bepaald moment echt iets niet begrepen hebben ofzo, zijn of zo, steek gerust jullie hand op en dan kan ik even vertalen. Welkom, welkom. Oké, on y va?
Ja.
D'accord. Donc vous étiez à Cannes avec ce film il y a une semaine et demie à peu près, il y a deux semaines vous avez présenté le film à Cannes. Et j'ai entendu dire en fait que vous avez failli gagner votre troisième Palme d'Or. Vous en savez plus, c'est ça?
Il faut donc être grappier.
Non, 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 c'est pas une blague. J'ai entendu que le jury avait beaucoup, beaucoup aimé votre film et qu'à la fin ils ont vu Parasite, le... celui qui a gagné la Palme d'Or, mais que vous étiez très proche. Bon, je ne vous porte plus. Finalement, vous avez gagné donc, le prix de la mise en scène. Félicitations. Donc après tous ces autres prix que vous avez déjà reçus à Cannes, qu'est-ce que ce prix spécifiquement signifie pour vous?
Mais, voilà. In France.
Oui, oui.
Ok. C'est formidable, c'est bien. Non, on est metteur en scène, cinéaste, et on a un directeur award. Donc c'est une belle reconnaissance du travail. Donc on est très, 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 très content. Il marche, peut-être que je ne parle pas si fort.
Oui, 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 oui. Mais, okay.
Voilà. Comme ça, ok, voilà. Bon, voilà, je vous disais simplement qu'on était très content d'avoir reçu le prix à Cannes.
Et en plus, c'était l'un des seuls que vous n'aviez pas encore gagné. Hein.
Exact.
Donc ça fait plaisir. Vous pouvez collectionner... Donc, il vous reste quelques années pour encore collectionner les derniers. Ça va. Est-ce que c'était aussi un soulagement, quelque part, de gagner un prix avec celui-ci? Parce que le dernier, la fin de commis, avait été reçu un peu moins positivement que d'habitude?
Oui, en France. Oui, c'était très bien. Mais vous savez, moi parfois, je me dis, on n'a pas de prix, mais ce n'est pas grave non plus, parce que de jour en nuit, voilà, on n'a pas reçu de prix et il a très très bien marché. Donc, bon, je ne crois pas qu'il faut toujours avoir un prix, mais c'est bien quand on l'a.
On ne peut pas devenir gâté. Hein,
c'est bien aussi.
Forcément. Alors pour revenir à la mise en scène pour laquelle vous avez reçu un prix, c'est peut-être difficile à expliquer en quelques phrases, mais quand même, comment vous mettez en scène vos films? Quel est votre le secret qui fait qu'un film des frères Dardenne soit un film des frères Dardenne? On a une demi-heure à peu près.
Mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et qu'en même temps, il y a une partie du travail qui est difficilement transmissible avec des mots. En peu de mots, je dirais que nous, on essaie, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose, un petit peu quand même. On essaie d'être... On se donne beaucoup de contraintes au début. Par exemple, nous n'avons pas de machinerie. Il n'y a pas de rail de travelling, il n'y a pas de grue, il n'y a pas tout ça. Le pied de caméra, on utilise très très peu. Pas que nous sommes des fanatiques de l'épaule pour l'épaule, mais le corps du cadreur qui a la caméra sur l'épaule, ou bien la caméra comme ça, qu'il porte devant lui, a plus de subtilité dans les réactions qu'à l'épaule. Et puis ce n'est jamais vraiment, vraiment stable. Jamais vraiment. Donc ça c'est une contrainte. La seconde contrainte, c'est qu'on travaille dans des décors... qui sont des décors, mais quand on n'est pas là, ils servent à autre chose, vous voyez. C'est des lieux de la vie. Tous les lieux où on a tourné, sauf la mosquée, que là on s'est servi d'une maison qui était allouée, mais tout le reste, ce sont des lieux qui, une fois qu'on les avait quittés, reprenaient leurs fonctions. La ferme, le centre fermé. Et on aime bien d'être dans les contraintes d'espace qui nous obligent à inventer des choses. On a essayé que la vie continue à exister pendant qu'on travaillait. Mais bon, je sais bien que ça ne dit pas grand-chose de comment on met en scène. Alors on essaie d'être le plus simple et on essaie que nos personnages soient présents, d'atteindre la présence des personnages. Et ça, c'est notre travail quand on sent que on a une prise où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, qui vibre, qui existe, et que c'est un peu indépendant de nous, que c'était comme si on ne le mettait pas en scène. Bon, voilà.
Est-ce que vous filmez de façon chronologique, c'est-à-dire la première scène d'abord, et après la fin, c'est la dernière scène que vous tournez?
Oui, plus ou moins.
Oui. J'imagine que ça aide aussi les acteurs à être dans le moment.
Ça aide les acteurs, oui, ça aide les acteurs, ça nous permet de trouver des choses, parce que on tourne dans la chronologie, mais si par exemple, je vais dire le 15e jour, il y a quelque chose qu'on découvre en travaillant avec l'acteur, et qu'on se dit, tiens, puisque maintenant on lui fait faire ça, peut-être que dans le décor qu'on a tourné le 2e jour, et qu'on a conservé, on pourrait refaire la scène du 2e jour, et on va refaire. Donc, entre guillemets, un peu comme un écrivain peut-être, qui écrit et puis revient aux premières pages. On ne se sent pas lié, on est producteurs nous-mêmes. Donc on ne se sent pas lié à un agenda qui nous obligerait à dire, voilà, ça a été fait, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Nous on dit, oui, non, on va revenir dessus. Donc, on est assez libre pour retourner dans le passé du tournage aussi.
Et la mise en scène, vous la divisez entre vous. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on travaille en duo?
Comme on fait maintenant.
Vous alternez, il y en a un qui prend un jour de congé et puis l'autre qui va
prendre. Oui, non, ça, on n'y arrive pas. Non, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que mon regard n'existe pas sans le regard de Luc. Et l'inverse aussi. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas travailler si l'autre n'est pas là. Si l'autre n'est pas là. Donc, oui, c'est vraiment à un moment donné, on ne devient pas une seule personne, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais. Allez, c'est un travail en commun, mais c'est comme si c'était une seule personne qui travaillait. Et puis à un moment donné, il y a un de nous deux qui a pris une fois cet exemple-là. C'est un peu comme au tennis. Quand on est en double, il y en a un qui est au filet, un qui est derrière, et puis ça change. Voilà.
Comme au tennis, c'est bien dit. Alors, pour revenir au jeune Ahmed, c'est un film sur un personnage intégriste, radicalisé. Comment vous avez eu cette idée? Est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé dans la vraie vie, les attentats, etc.?
Oui, c'est-à-dire que ça fait déjà quelque temps, évidemment, parce qu'il y a des attentats, il y en a eu plusieurs. Et c'est vrai que quand ça s'est passé en Belgique, déjà, il y a le musée juif de Bruxelles, en 2014, et puis Zaventem, et puis Malbec, le métro. Mais bon, en même temps, ce qui s'est passé en France aussi, voilà, c'est des choses où on s'est dit, mais comment regarder cela? Parce qu'il y avait déjà eu des films, notamment en français, qui filmaient la radicalisation, c'est-à-dire comment les jeunes peuvent devenir radicalisés. Et je dirais, enfin, nous ce qu'on pensait, c'est que ces films-là ne prenaient pas au sérieux la religion. Et le fait que la religion peut devenir un vrai imaginaire qui vous séduit et qui vous transforme et qui vous fait croire que vous êtes impur parmi les purs et que plus musulman que les autres musulmans, que le fait de toucher quelqu'un d'autre n'est pas bien, qu'il faut, etc., que les juifs, les chrétiens, les athées, c'est pas des vraies personnes. et que donc vous êtes vous le bien, et que vous faites le bien, et qu'au nom de cela, vous pouvez tuer s'il le fallait. Donc vous avez un permis de... Ce qui fonde la culture, qui est quand même l'interdiction de tuer, bien, cette idéologie vous permet de le faire parce qu'il s'agit de défendre quelque chose de plus important que l'humanité, qui est le royaume des purs, quoi. Mais qui aujourd'hui est porté par les islamistes et qui peut être porté par d'autres religions, d'autres pensées. Mais, donc, on s'est dit, voilà, ce personnage-là, pour être, comment est-ce qu'on va le filmer? Comment est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui est à ce point persuadé d'avoir raison, à ce point fermé, enfermé, dans une pensée religieuse transmise là, par l'imam, par le cousin mort. Bon, voilà. Mais ça, c'est venu après. Hein. Mais voilà, on s'est dit que c'est ça qui est pour nous qu'on voulait filmer. Pas toutes les conditions qui font qu'on devient. Et c'est pour ça qu'on a... On a mis un peu en arrière-plan tout ce qui est social, économique, chez le gamin, chez le jeune âme. Ce qui nous a intéressé, c'était de montrer que la famille, que sa famille, dans son esprit à lui, qui est l'esprit de l'imam, est une famille impure. Puisque sa mère boit un peu, sa sœur s'habille pas comme il faudrait, etc. Et bon, sa mère veut l'embrasser alors qu'il a fait ses ablutions, etc. etc. Et voilà, on a essayé de mettre chaque fois l'impureté en avant, tout ce qu'il ne pouvait plus supporter.
Parce que si on va chercher les causes, les origines de la radicalisation, quelque part on simplifie,
Non, c'est pas ça, c'est que nous on s'est dit, bon, c'est notre film, quelqu'un d'autre peut faire un autre film là-dessus, mais nous on s'est dit, si on dit au spectateur, ah, c'est pour ça qu'il devient radical, le spectateur dit, ah ben oui, ça va, j'ai compris. Et justement, on voulait dire, on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui... On est un peu, nous-mêmes, on a été un peu comme la mère, si vous voulez. Il nous a échappé. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut construire une histoire avec un personnage secondaire qui viendrait l'aider à s'en sortir? On n'y est pas arrivé. On a trouvé des solutions, mais ça nous paraissait un peu romanesque, un peu trop facile. Parce que quand on est vraiment radicalisé, pour sortir de ça, c'est une drôle d'affaire. Hein. C'est comme une secte. On est vraiment dedans. Et on pense qu'on a raison.
Mais alors, j'imagine que vous vous êtes quand même préparé, évidemment, parce que l'islam, il y a beaucoup à découvrir, à explorer en tant que cinéaste, j'imagine. Comment vous avez fait ça? Vous avez rencontré des gens, lu des textes, etc.
Oui, 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 mais notre objectif, ce n'était pas de devenir des théologiens. Hein. Non. Celui dont l'objectif est de devenir théologien ou bien de réfléchir sur les rapports entre les religions, hein. Bon, évidemment, nous, ce n'est pas ça qu'on a fait, mais il fallait qu'on se documente, évidemment, par rapport à l'histoire que nous voulions raconter, dont Luc a parlé. Il fallait au moins que les versets que nous citions soient des versets qui étaient utilisés par ces gens-là et qu'ils correspondent à une réalité. Les rituels de la prière et les rituels des ablutions, ben, évidemment, nous nous sommes fait conseiller pendant le tournage. Parce qu'on a beau savoir comment il fallait les faire, il y a quand même un rite et un rythme à respecter. Et chaque fois que... Donc il y avait quelqu'un à côté de nous pour ça. Quant au reste, on s'est documenté, mais on s'est aussi documenté à travers des livres, à travers des rencontres. Il y a quelqu'un qui était conseiller, si je puis dire, pendant l'écriture du scénario, puis quelqu'un sur le plateau, quand il y avait des scènes qui avaient trait vraiment à la religion. Hein. Et d'ailleurs, cette personne nous a amené des choses auxquelles nous n'avions pas pensé pendant l'écriture du scénario. Et puis, nous avons dû aussi nous documenter sur le centre fermé. Parce que comment fonctionne vraiment un centre fermé? Et c'est à partir de là aussi qu'on nourrit notre histoire et qu'on la construit. Et idem pour la ferme, qui était quand même pour nous un peu mystérieuse. On savait des petites choses, mais comment on a donc trouvé des scènes qui racontaient le parcours de notre personnage, de Ahmed, qu'on met dans un endroit où l'impureté règne partout. Alors pour nous, c'était intéressant. Et en même temps, c'était basé sur une réalité. C'est vrai qu'il y a des jeunes que... des éducateurs emmènent du centre fermé vers la ferme pour qu'ils redécouvrent, pour les remettre en contact avec la vie et pour qu'ils redécouvrent quelque chose qu'ils ne dominent pas. Les animaux, tout ça, on ne domine pas, il faut qu'on s'adapte. Donc, ça c'est, si on, je pense que si on n'avait pas eu cette documentation, il est très possible que nous n'aurions jamais pensé à faire une partie de notre film dans une ferme. Donc la documentation ne vient pas seulement pour, comment, pour dire « Ah oui, nous avons raison », mais nous sert vraiment comme matière pour construire notre histoire.
Ouais, ça nourrit votre, votre affection. Ouais. Alors c'est le film, je pense, qui s'approche le plus du genre du...
Les gens, on ne passe pas le micro aux personnes. Pardon ? Tu ne passes jamais le micro aux gens.
Ah oui, après.
Parce qu'il est 7h15.
On peut faire ça maintenant, si vous voulez.
Non, non, je dis ça parce qu'il est 7h15 et que je suis...
Ah oui, oui, oui.
Non, mais que je vois que... Je me dis, il y a plein de questions.
C'est sûr, je peux faire ça. Je voulais juste...
C'est très intéressant, hein, mais...
Ouais, non, non, c'est sûr, on va être démocratique. Après, je passe en micro au public. Je voulais juste savoir comment vous avez construit l'aspect thriller du film, parce que c'est quand même le film que vous avez fait qui s'approche le plus du thriller, même si un personnage comme celui-ci, c'est pas du tout un personnage, un héros de film, c'est un personnage très rigide qui n'évolue presque pas.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on a construit de manière à ce que le spectateur se pose la question de savoir mais que va-t-il faire ? Et quand il sait qu'il va le faire, mais quand va-t-il le faire ou comment va-t-il le faire ? C'est toujours un peu comme ça qu'on maintient le suspense. Voilà. Alors une fois qu'on a vu qu'il recommençait à aiguiser une brosse à dents, on se dit, oh là là, on croyait que quand même il était... Mais non, il continue. Après la visite de sa mère, où sa mère est venue pour lui dire la tristesse dans laquelle elle était, mais en même temps, elle a dit que Madame Inès se battait pour faire enfermer l'imam, pour faire l'enquête contre lui. Ça le motive aussi à repartir, quoi. Et qu'elle voulait le voir, en plus. Donc il a un peu tous les ingrédients pour poursuivre le combat. Et c'est ça qui est terrible, c'est ce désir de ne pas lâcher prise, comme ça, de toujours continuer.
Très radical.
Oui.
Ik ga inderdaad eens naar het publiek kijken. Jullie vragen hebben? Laat jullie gaan. Ja, mevrouw? In Frans of in Nederland, ik zal het over Frans nog.
Depuis quelques années, je m'occupe professionnellement de la radicalisation des jeunes et de la prévention. Et d'abord, mes félicitations pour...
Non,
oui, je vais traduire après.
Depuis quelques années, je m'occupe professionnellement et pédagogiquement de la radicalisation des jeunes. D'abord, mes félicitations pour la subtilité dont vous dessinez le processus de la radicalisation. Ce qui est important, c'est que vous montrez vraiment que c'est intouchable, hein, que c'est comme le jeune appartient à un autre monde et qu'on ne parvient pas à y entrer. Mais comme pédagogue, je me demande quand même, hein, donc j'ai vu aussi le film de Laila M, je pense que vous connaissez, il y a un dossier pédagogique là-dedans, là-dessus aussi. Quel est votre but ? Parce qu'ici, c'est un public spécial, hein, mais si vous montrez ce film aux jeunes, hein, aux musulmans, j'ai quand même, je me sens un peu intrigué, donc... Je me fais un peu de soucis sur ce que ça pourrait provoquer. Bon, c'est très réel ce que vous montrez, hein, mais chez certains spectateurs, je me demande ce que ça pourrait évoquer.
Vous inquiétez, hein.
Oui.
Oui, moi je dirais que...
Je vous conseille de faire un dossier pédagogique là-dessus.
Ah, il y en aura. Mais je ne crois pas qu'il faut... Vous comprenez, quand vous faites un film... C'est pas comme si vous faites un travail pédagogique.
Non, non, non.
Vous faites un film, vous ne pouvez pas vous dire « Attention, je vais vexer celui-là.
Non, non, non.
Celui-là, il ne va pas comprendre. » Parce que, vous savez, quand on fait la promesse, l'ancien leader du Front National en France, M. Le Pen, le père Le Pen, il dit « Il faut que les immigrés africains ils voient le film des Belges. Comme ça, ils verront comment ils sont traités et ils n'auront plus envie de venir. » On peut toujours transformer le film. Ça, il y en a qui le font. Hein, ça, c'est sûr. On peut le voir à sa façon.
Mais je pense qu'il faut voilà, le montrer. Enfin, nous, voilà, on a montré un gamin qui échappait et qui est, voilà, ce qui est ce qu'il est, comme vous avez dit, complètement dans sa tour. Et voilà. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec un personnage comme ça? Ça nous questionne autant que ça questionne les musulmans, que ça questionne le personnel qui s'en occupe. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur.
Non, non. Je non, fais des soucis.
Si on n'est pas compris, on discute. Voilà.
Mais c'est pas ça que vous voulez dire.
Non, c'est juste, je suis dans le terrain, et donc...
Ouais.
Je suis dans le terrain et c'est tellement réel que je me fais des soucis.
Pourquoi ?
Des deux côtés, si l'on montre ce... On pourrait montrer, donc à côté de moi il y a aussi un professeur, on pourrait montrer ce film à des jeunes dans les classes. Ça dépend de quel est le public. Si ce sont des musulmans, donc ça pourrait évoquer certaines choses. Aussi, si l'on le montre, comme vous avez dit, au grand public, donc on pourrait avoir des réactions polarisantes dans la société. Donc, ça, la qualité du film, sinon vous n'auriez pas été sélectionné pour le Festival de Cannes, mais je me fais quand même des soucis dans le climat polarisé déjà. Oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas la solution, on verra par après. Ouais. Mais c'est très réel. Félicitations.
Mais je suis d'accord avec vous. Il faut, nous, c'est chaque fois, parce qu'on a déjà montré le film avec plusieurs musulmans dans la salle qui ont pris la parole, qui n'ont pas pris la parole, parce qu'ils viennent parler après, parce qu'il y a un contrôle social très fort dans la communauté musulmane. Donc, voilà, moi je dis ça, mais bon, j'ai pas envie que l'autre le sache. Bon, c'est normal. Mais je pense qu'on va voir avec les professeurs, mais les associations en Flandre et du côté francophone, vont inviter tous les professeurs d'histoire, de religion, de morale pour voir le film. Et on verra s'ils pensent qu'ils peuvent le montrer à leur classe. Mais je pense qu'on peut discuter. D'ailleurs, nous, on se déplace aussi pour parler du film. Et c'est vrai qu'il y a des choses à lesquelles il faut faire attention. C'est sûr.
Il y a une autre frage à la publique. Il y a peut-être une discussion en plus.
Justement, je voulais demander si vous aviez comme spectateurs des musulmans. Et ce que pensaient de ce film, et surtout les imams.
C'est une drôle de question, si vous permettez. Je vais dire, le film sort depuis plus d'une semaine en Belgique et en France. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'examen d'entrée avant l'entrée dans les salles de cinéma. On ne demande pas s'ils sont athées, catholiques, musulmans, tout ça. Hein? Nous n'en savons rien, en fait, de comment ça se passe. Nous n'en savons rien. Je suppose que les gens... et puis, vous savez, il y a pas mal de gens qui sont libanais, dont les parents sont originaires de l'Afrique du Nord, et tout ça. Ils sont athées aussi. Hein. Ils sont pas... Tout le monde n'est pas religieux. Ils ont des rapports plus distants avec la religion. Donc, votre question est difficile. Bon, si, le reste, mais comme Luc a dit, nous avons... Dans les soirées que nous avons, dans lesquelles nous avons rencontré le public après la projection, il y a des gens qui disent bon, moi je suis musulman, musulmane, c'est plutôt des femmes d'ailleurs, et qui parlent et qui sont libres, qui parlent librement du film. Et puis, je ne dis pas que vous avez dit ça, mais j'aime quand même bien de dire que quand on fait un film, on ne fait pas un film, on fait un film pour des individus. Le spectateur, la spectatrice, c'est des individus. Ils peuvent appartenir à des groupes, à des communautés, à des choses, à des là. Mais en même temps, moi, je pense que les individus ont aussi une autonomie de réflexion, de pensée, d'émotion, même ils appartiennent aussi à des communautés, comme on dit aujourd'hui. Et le film s'adresse à des spectateurs, à des spectatrices, et j'espère que le film peut faire vibrer chez chacune et chacun des choses qui peuvent l'inviter à réfléchir, à parler, à être ému. C'est ça un peu que nous, on essaie de faire. Voilà. Mais peut-être que si on se revoit dans quelques mois, peut-être on a plus d'informations. Non, c'est un peu tôt.
Menez là, qui a parlé le micro.
Non, je parlerai comme ça. C'est très intéressant, c'est un très beau film, évidemment. D'abord. Deuxièmement, je voudrais vous poser une question très simple sur la fin.
Oui.
La fin du film. Il demande pardon. il ne dit pas pourquoi. Parce que il est là dans une situation physique qui lui interdit d'expliquer. Enfin,
mais il dit pas pourquoi.
Cette fin nous laisse. C'est très beau que vous laissez un noir.
Si vous voulez, nous, comment on l'a vu, hein, mais il y a différentes interprétations. Donc, notre interprétation, quand on l'a tournée, parce qu'on avait d'autres fins, on a tourné que celle-là, c'est que nous, on se dit que le garçon, il est dans une situation où il est devenu, je dirais, impuissant. Il n'est plus le maître de tout ce qu'il faisait. Avant, il calculait, il mentait. Bon. Là, il est réduit à devoir demander de l'assistance. Et il appelle sa mère. Il n'appelle pas l'imam, il n'appelle pas Allah, il appelle sa mère, comme tous les enfants. Et après, nous, la scène, c'est comme on a essayé de... Bien sûr, il va, parce que lui, il a vu le truc là, qu'on n'a pas encore vu, pour aller frapper avec son crochet, avec lequel il allait tuer.
Et il avait l'intention de...
L'intention de tuer, de frapper, en tous les cas, Madame Inès, qui est musulmane, hein, je vous le rappelle. Hein, et... Au lieu de ça, il va frapper. Mais tout son trajet, qui dure plus ou moins 3 minutes, nous, on l'a filmé pour que le spectateur, il sente le changement du garçon, comme si il naissait, comme si il sortait d'une peau, comme un serpent qui mue. Vous voyez, comme il se métamorphosait, comme si il devenait quelqu'un d'autre. Et quand il dit pardon à Madame Inès, bon, il ne fait pas un aveu, parce que Madame Inès, elle sait ce qu'il a fait, hein. Il a voulu la tuer, elle le sait très bien. Simplement, elle lui dit « Pardon pour ce que je vous ai fait. Donc, je voudrais vivre, je peux vivre avec vous maintenant. » C'est pour ça qu'il touche sa main. Donc, il retrouve la vie. Nous, c'est ça qu'on a voulu filmer. Mais je sais que beaucoup de gens nous ont dit aussi « Oui, mais on croit quand même qu'il peut encore frapper Madame Inès. » Mais moi, non, mais mon frère non plus, mais je comprends qu'on puisse penser ça aussi. Voilà. Donc, pour nous, c'est une espèce de réconciliation quand même avec cette femme. Donc, ça veut dire que ce garçon est quand même sauvé. Voilà, il n'est plus ce qu'il était. Il a changé.
Voilà. Donc, le film qui est très réaliste, qui est, on suit le personnage, on est avec lui, on comprend presque son itinéraire. Mais là, il devient, dans les dernières images, il devient soudainement une fable.
Un peu, si on veut. Oui, il y a un peu cette idée de... C'est-à-dire que on ne suit pas la vie du garçon après, c'est vrai. Mais il est quand même... C'est quand même réaliste aussi d'être... Hein, sa main, il ne bouge plus. Enfin, lui,
est-ce que vous avez pris de... est-ce qu'il y a des gens, des petits garçons, des jeunes garçons, comme celui-là, qui ont changé d'idée? Ça existe, peut-être, mais...
J'espère que oui, que... Bon, ça, c'est la réalité. Hein. On a rencontré un psychanalyste qui travaille avec des jeunes à Paris, M. Fethi Ben Slama, qui a écrit plusieurs livres sur la déradicalisation, la radicalisation. Et il nous a dit, quand un jeune n'est pas passé à l'acte au point de réussir, il y a moyen de revenir. Mais une fois que... Une fois qu'il a tué ou...
C'est dur.
Mais je crois que le film montre quand même qu'il faut vraiment un changement très radical aussi pour que ça change.
Je comprends qu'on puisse penser qu'il ne change pas.
Réponse, là-dessus, non oui. Madame, tes réponses là-dessus, vous êtes dans le métier. Cette question.
C'est très difficile d'en sortir. Bon. Mais il y a toujours des triggers dans le film. Vous avez très bien montré les triggers qui mènent à la radicalisation et qui font que le garçon évolue dans son processus. Mais à la fin, vous montrez aussi qu'un tout petit fait donc, de se sentir impuissant et peut changer. Et c'est ça, donc... mais c'est très difficile. Hein. Donc j'avoue que c'est très difficile. Tout dépend de l'environnement. Dans le film, le père est aussi absent. C'est aussi un signe très spécifique. Il faut toucher les jeunes pour les déradicaliser. Il faut les toucher par des triggers positifs. Mais c'est très difficile. Et c'est ça, cette subtilité, comment c'est difficile, vous avez montré, parce que le prof, elle a essayé, la mère, elle a essayé. Et ce sont quand même des personnes auxquelles il était lié émotionnellement. Mais c'est très difficile, j'avoue.
We hebben misschien nog tijd voor één laatste vraag en dan moeten zij naar Brugge voor hun allerlaatste kilometer. Ja, meneer Brugge.
Oui, voilà. Bon, depuis l'enfant, je suis un grand fan de vos films, de votre travail. Je ne voulais pas vous remercier. Et vous dire tout mon respect que vous avez réalisé ce film et que vous l'avez réalisé aujourd'hui. Alors ma question, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans notre société actuelle, et aussi qu'est-ce qui est le plus dangereux, des jeunes comme Ahmed ou certains maîtres de la perception et de la polarisation qui nous gouvernent ou qui font fonctionner?
La polarisation,
politique, donc oui. C'est les hommes politiques qui polarisent les opinions ou les jeunes comme moi.
Ça va ensemble, malheureusement. Hein, oui. C'est cette espèce de course effrénée vers l'identité, qui n'est jamais assez identitaire. Et c'est le clash, toujours. Toujours. Et c'est un truc identitaire. Enfin, on pourrait dire que, par exemple, ce radicalisme religieux aujourd'hui, que nous connaissons, nous, ici, avec un certain nombre, ils ne sont pas nombreux, mais enfin, ils sont là. Cette vision radicale de la religion musulmane, c'est aussi parce que le monde est en train de changer et que peut-être ces religions, il en reste encore quelques-unes, et là je pense qu'on soit croyant ou pas, je pense que la question n'est pas là, mais qui dominent, qui lorsqu'elles sont quelque part, dominent toute la société. Et là je pense qu'ils sont en train de voir. Ils ne savent peut-être pas eux-mêmes que ça, c'est en train de changer. Que la mondialisation, la globalisation fait que, avec tout ce côté horrible aussi, la mondialisation, je ne dis pas que c'est la panacée universelle. Mais en tout cas, ça provoque des séismes. Et les plaques sont en train de bouger. Et je pense que les religions qui continuent dans certaines parties du monde à dominer les sociétés, peut-être elles s'aperçoivent qu'aujourd'hui, ça va changer. Et que quand ça va changer, on se rédit toujours pour ne pas que ça change. C'est un point de vue. Et l'extrême droite qui revient partout en Europe, c'est parce qu'ils sentent aussi... Enfin, c'est une version optimiste que je donne. Hein, c'est parce qu'ils pensent aussi que l'Europe est en train de se construire. Et que leur réflexe de fermeture, si on est cohérent jusqu'au bout avec ce qu'ils pensent, ils vont... Et nous allons, mais peut-être c'est ça qu'une partie de la société veut, à la catastrophe. C'est la catastrophe. Enfin, si l'Europe se tombe en miettes, je pense que ce sera vraiment la catastrophe. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de l'Europe. Ils ont peur de ces identités multiples. C'est ça et donc, eux, de disparaître. En tout cas, sous cette forme-là.
Dans la scène de la discussion dans l'école... Il y a des musulmans qui disent, mais oui, on peut donner le cours d'arabe aussi avec des chansons, des tubes chantées par des femmes, et le Coran, on peut faire les deux, ils disent. Ils disent, on peut faire les deux, il y en a plusieurs qui disent ça. Et ceux qui ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont dans la même peur de disparaître. Ils disent, non, non, non. Voilà. Et l'extrême droite, c'est le discours identique. Ils disent non, on va disparaître en tant que flamand, on va disparaître en tant que wallon, on va disparaître en tant que français, et on ne veut pas entrer dans l'Europe, on va disparaître en tant qu'autrichien, on va disparaître. C'est terrible. Mais aujourd'hui, ça marche, ça séduit. Plus qu'il y a 20 ans. Espérons que les vrais démocrates restent quand même solides et qu'on refuse ça. J'espère.
deze optimistische noot gaan we moeten
eindigen. Ik voel